musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
En cette année 2017, c'est sortant du naufrage du navire norvégien Limer. Je suis avec Jean-François Henry, historien ilé, pour nous raconter cette page d'histoire de l'île-Dieu. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Et de Pascal Cariou, du service patrimoine à la mairie de l'île-Dieu. Bonjour Pascal.
Bonjour Roland.
Dans quel contexte est arrivé ce naufrage et comment la SNSM a opéré durant le sauvetage?
Alors première chose, le sauvetage des rescapés du cargo Imer, cargo norvégien, arrive dans une suite. Ce n'est pas le premier événement qui touche l'île. Nous sommes en 1917, c'est la troisième année de guerre. Les forces françaises comme les forces allemandes sont déjà épuisées. Et un des grands enjeux, c'est le ravitaillement des forces en présence. Les Anglais ont bloqué les Allemands sur la mer du Nord et les sous-marins allemands, à l'initiative de l'amiral von Tirpitz, veulent en quelque sorte empêcher le ravitaillement de la France et de l'Angleterre en lançant une guerre sous-marine à outrance. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut le voir. Donc les sous-marins allemands, très performants pour l'époque, ont commencé dès l'année 16, sur nos côtes, ailleurs bien sûr, mais sur nos côtes, à faire en quelque sorte les premiers coups de semonce. Ils intervenaient de trois façons. Soit ils mettaient des torpilles, soit ils laissaient des mines sous-marines, soit ils canonnaient les bateaux lorsqu'ils étaient donc en surface.
Tu parlais de nos côtes, c'est les côtes de l'île-Dieu.
Les côtes, non seulement de l'île-Dieu, mais les côtes atlantiques. Donc l'enjeu, alors pourquoi autour des côtes de l'île-Dieu? Non pas parce que l'île-Dieu était un endroit stratégique, mais tout simplement parce que l'île-Dieu, du point de vue géographique, est située au sud de l'embouchure de la Loire, sur la circulation de tous les bateaux qui vont longer les côtes, et notamment les convois, puisque pour lutter contre la guerre sous-marine, les Français vont organiser des convois, c'est-à-dire vont essayer de protéger les navires qui vont notamment de l'Orient vers la Palice, dans les deux sens, nord-sud et sud-nord, et puis ils vont essayer de protéger aussi les navires de pêche.
Donc, On peut dire que c'était une route maritime.
C'était une route maritime. Et puis il y avait une deuxième route, celle qui venait bien sûr soit des colonies, c'est-à-dire d'Afrique, soit qui venait d'Amérique, et notamment les USA, qui venaient donc vers Saint-Nazaire.
Donc, l'île-Dieu, c'était un point stratégique.
C'est sur une circulation, oui, effectivement. Hein, mais l'île-Dieu en soi, non. Mmh. Hein, l'île-Dieu en soi, non. À cette époque-là. Si bien que l'année 17 va commencer par trois chalutiers qui vont être coulés. Donc, c'est la Jeanne-Mathilde, le Pierre-le-Grand et le Saint-Jacques qui vont être canonnés par un sous-marin allemand. Donc, déjà, le janvier commence très mal, puisque trois bateaux sont canonnés.
Ces chalutiers, c'était des chalutiers de l'île-Dieu?
C'était des chalutiers de l'île-Dieu qui faisaient la drague. Il n'y avait pas de vent. Ils étaient là à attendre lorsqu'ils ont vu de loin arriver donc un sous-marin. Le sous-marin a demandé de mettre en panne. Donc le bateau est immobilisé, mais il n'y avait pas de vent. Et ils ont demandé à l'équipage de prendre le canot et de monter sur le sous-marin. Ils ont pris le canot, ils sont allés, eux, les Allemands, sur le sous-marin, ils l'ont visité et ils ont mis des grenades explosives, c'est pour ça que je disais canonné, ce qui est un peu inexact, mais ils l'ont fait exploser. Et le chalutier a coulé et l'équipage est rentré à l'aviron à l'île-Dieu. Alors, ils ont fait ça pour le jeune Mathilde et ensuite pour le Pierre-le-Grand et pour le Saint-Jacques. Donc, pour l'île-Dieu, c'est déjà, l'atmosphère est très plombée, il n'est plus question de sortir parce que la présence est à ce moment-là vraiment une présence très très pesante.
Vous parlez de sortir en mer.
Sortir en mer, hein. Ils restent là. Alors pourquoi les Allemands s'attaquent à des pêcheurs? Pour trois raisons. La première, c'est essayer d'affamer la population, c'est-à-dire de l'empêcher de se ravitailler en poisson. La deuxième, c'est pour créer un climat de terreur, nous sommes en guerre. Et la troisième, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de bateaux de pêche qu'on appelle les Q-ships, qui étaient des bateaux pièges, qui étaient en quelque sorte faits pour attirer les sous-marins. Et si les sous-marins auraient pu s'approcher, et à ce moment-là, ils auraient été coulés, quoi, si vous voulez. Donc, notamment lorsqu'ils montent à bord des trois chalutiers, ils vérifient qu'il n'y ait pas d'armes à bord. Car s'il y, s'il y avait eu des armes, ils auraient fusillé l'équipage. Voilà, donc c'est le contexte. Donc, lorsque arrive donc la fin du mois de janvier, le 26, il faut remettre dans un contexte, j'allais dire, atmosphérique, il fait moins 15.
Janvier 1917.
1917, il fait moins 15.
Des températures extrêmes pour l'île-Dieu.
Extrêmes pour l'île-Dieu, extrêmes pour l'ensemble de la région, mais on a des hivers extrêmement froids. Il faut savoir que l'eau de mer gèle à moins 8. Donc là, on est dans une situation extrême et à la pointe du but, il y avait un sémaphore qui sera détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le guetteur aperçoit au large une baleinière avec en haut du mât un sac, une sorte de signal de secours. Donc on prévient donc le port d'envoyer le canot de sauvetage. Alors il est vrai, Roland, qu'il ne faut pas dire la SNSM, car ça, à l'époque, ça s'appelle la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés. Puisqu'à l'époque, il y avait deux sociétés. Il y avait cette Société Centrale, et puis il y avait aussi les HSB, les Hospitaliers Sauveteurs Bretons. Donc, le patron Noé de Vaux, qui est un sauveteur très chevronné, hein, qui avait été décoré à la Sorbonne, etc., appelle son équipage, mais c'est le véritable désarroi, parce que son équipage, il est à la guerre. Donc, sur... l'équipage habituel, parce qu'en général, il y avait un double équipage, parce que beaucoup naviguaient, n'étaient pas disponibles. Donc, en gros, il y avait 22 personnes qui étaient mobilisables. Et sur l'équipage, il n'y en a que 4 qui sont des sauveteurs chevronnés. Il complète son équipage avec ceux qui sont disponibles, et les marins de l'île-Dieu se précipitent. Et il y a des gens âgés qui ne sont pas mobilisables. Il y a des gens malades. Il y en a un qui a une bronchite, et qui, en entendant l'appel, se sent brutalement mieux et dit à sa femme « ça va beaucoup mieux ».
Cette personne part.
Et il y a un jeune, Gouillet, qui lui est très jeune. Et donc, il constitue l'équipage. Mais, premier problème, la mer est trop basse pour que le canot puisse partir, car le rail ne permet pas d'amener le canot au niveau de l'eau. Donc, il faut attendre que la mer monte. Ce n'est pas une anecdote, ça va bouleverser complètement le reste de l'histoire. Donc, voilà à peu près la situation. Pascal prend la suite.
Ah bon,
Pascal.
Alors, la suite, eh bien, ils vont réussir à partir. Ils vont retrouver la baleinière, effectivement, avec les naufragés. Mais déjà, ils trouvent des naufragés qui sont fatigués, épuisés. Donc, ils sont au nombre de 7. Et ils vont donc les faire monter à bord du canot de sauvetage, les réconforter, les réchauffer. Hein. Mais comme a dit Jean-François, les conditions sont assez extrêmes et elles vont encore s'aggraver dans le courant de l'après-midi.
Moins 15, on rappelle.
Oui. Ouais. Le vent va fraîchir, la mer va grossir. Enfin, c'est une vérité. Le livre qui a été tiré de cet événement s'appelle La tempête glacée. C'est pas pour rien. C'est vraiment une tempête glacée qui s'abat. Alors, sur la région, mais c'est vraiment du froid sur toute la France. Hein. Même à Paris, sur cette période de fin janvier, début février 1917, il fait un temps terrible. Hein. C'est un hiver terrible. Et donc, malheureusement, eh bien, le sauvetage, qui au départ était réussi, hein, puisqu'ils arrivent à les faire monter à bord du canot de sauvetage, eh bien, va tourner au tragique.
On peut peut-être dire un mot des Norvégiens ?
Alors, on peut dire un mot des Norvégiens.
Parce que lorsque Noé de Vaux départ, il part en sauveteur chevronné pour un sauvetage ordinaire. Hein, parce qu'il est habitué à faire cela. Donc, il part, il a le vent portant. Et il a le courant portant, donc ils sont très rapidement sur zone. Seulement, ils découvrent des gens, comme dit Pascal, qui sont épuisés, mais qui étaient très bien équipés, car ce sont des Norvégiens. Donc ils savent, eux, ce que c'est que le froid. Mais
ils connaissent le froid, oui.
Ça fait 3 jours qu'ils sont en dérive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Cet Imer, c'est un cargo qui était parti d'Espagne et qui a été arraisonné par les Allemands, en gros, au large de Rochefort. Que fait le bateau allemand ? Il arraisonne le bateau, il fait descendre l'équipage, il visite les cales et il coule le bateau qui est pourtant un bateau neutre. Donc ça, c'est ce qu'on appellera plus tard la piraterie allemande, la barbarie. Et les deux baleinières, pendant un certain temps, restent côte à côte. Et puis à un moment donné, le mauvais temps fait que celle qui est commandée par le capitaine va disparaître. et c'est celle du lieutenant qu'on va retrouver. Donc voilà, donc ce sont des gens...
Des baleinières, des Norvégiens.
Des Norvégiens épuisés, qui n'ont plus de ravitaillement, et qui vont alourdir le canot qui s'appelle à ce moment-là le Paul Toureil.
Pascal, la suite.
La suite, c'est un sauvetage donc, qui vire au drame, puisqu'en fait, effectivement, entre-temps, il y a eu la renverse de courant. Et donc, nos devots décident que ça va être compliqué, enfin, constatent que ça va être compliqué de rallier le port, et se dit qu'il vaut mieux donc, se mettre au mouillage et attendre que le courant soit plus favorable. Ce qui est tout à fait intelligent de la part d'un marin. Et malheureusement, entre-temps, donc, les conditions de mer se sont dégradées et dans la nuit, le câble de l'ancre va se rompre. Et c'est là que commence vraiment le drame, puisqu'ils partent en dérive à ce moment-là. Le canot n'est plus manœuvrable, puisqu'il fait un temps épouvantable, et ils sont pris par la tempête et emportés par le courant.
Et les dallos, qui sont, vous savez, les trappes pour évacuer l'eau quand l'eau embarque, les dallos se bloquent parce qu'ils gèlent. Donc le bateau devient lourd des 7 hommes en plus de l'équipage, et lourd de l'eau qui ne s'évacue plus et qui gèle. Voilà. Donc il part, et l'idée de Deveau, c'est de partir en fuite sur la destination, la route des grands paquebots, des grands cargos qui vont sur Saint-Nazaire, en se disant, là, je vais être récupéré, et à ce moment-là, je serai sauvé.
Je vais être dans le sillage d'un paquebot.
Voilà, et à ce moment-là, ils nous porteront secours.
Sauf qu'ils ne vont pas croiser de cargos. Voilà.
Alors, comme on est à l'île-Dieu, de l'île, on suit de loin tant qu'on peut la manœuvre, et tout le monde comprend que Noé de Vaux, mais à un moment donné, on n'a plus de nouvelles, on ne sait plus.
Alors, bien ils sont vraiment en perdition.
Il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Voilà.
On a retrouvé aux archives départementales un télégramme qui est envoyé de l'île-Dieu donc, pour référer aux autorités maritimes et qui dit qu'ils sont considérés comme perdus.
Et la presse titre « Nous sommes sans nouvelles des sauveteurs ».
Et en fait, ce qui est fou, c'est que sur l'île Dieu, on va perdre la trace donc, des sauveteurs jusqu'au 1er février. Puisqu'en fait, ils vont donc partir en dérive et vont finir par accoster sur l'îlot de Ragnès. Mais il faut se remettre dans le contexte d'il y a 100 ans. On n'a pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Et donc sur l'île, on ne sait pas qu'ils sont à Ragnès. Et ce n'est que le 1er février qu'enfin... un télégramme, là encore, annonce aux autorités maritimes pour dire que l'équipage est à Concarneau. Enfin, les rescapés de l'équipage, parce que malheureusement, entre-temps, il y a eu des morts.
Donc, un certain nombre d'entre eux sont morts pendant... Dès la première nuit, il y en a un qui décède. Et bien, au fur et à mesure, eh bien, l'épuisement est là. Le froid, il faut imaginer qu'ils sont... donc, ils ne sont, la voile ne porte plus parce qu'elle est complètement gelée. Donc, ils sont pratiquement le jouet des flots. Noé de Vaux essaye le plus possible de tenir un cap. Et c'est à l'aube du troisième jour, puisque c'est le titre d'un très beau tableau de Paul-Émile Pajot, qu'il aperçoit à l'embouchure de la Veine et qu'il arrive, après avoir contourné Belle-Île et Groix, à faire terre sur l'îlot de Ragnès, qui est un petit îlot qui est asséché, en quelque sorte, à marée basse. On peut retrouver la côte. Et là, il est accueilli par la seule famille qui vit sur l'îlot, qui est la famille Marek. Et je peux dire que j'ai eu cette chance de rencontrer le descendant de Marek, donc Jean-Marie, qui a accueilli cette famille. Et celui qui m'a accueilli avait 80 ans, donc il était tout petit, il avait 7-8 ans. Et il se souvenait bien de ce canot de sauvetage qui est arrivé. Son père a marché sur les rochers à quatre pattes, parce que il était entièrement verglacé, il faut imaginer, l'eau gelant, l'eau de mer. Hein. Et casser la glace pour sortir, les morts, parce que les morts, ils étaient morts, mais ceux qui étaient encore en vie. Et là, il y a un deuxième drame, c'est les deux frères Pilet, puisqu'il y a Émile et Edmour qui vont mourir à terre, d'épuisement. Et l'un à l'entrée de la maison et l'autre devant la cheminée. Sans doute par un choc thermique, il réchauffait trop rapidement et il est mort.
Il faisait trop froid à l'extérieur et trop chaud à l'intérieur.
Et le passage de l'un à l'autre, trop brutal, a fait qu'il n'a pas survécu. La pauvre famille Marek a fait le maximum pour les réconforter. Pendant ce temps-là, le lieutenant norvégien est parti à Nevé, qui est le bourg de Ragnès pour appeler les secours. Et ce n'est qu'après qu'on a pu dégager les pauvres gars qui étaient dans la glace.
Combien de marins il est disparu ?
Alors, les marins, il est...
Alors, ils sont partis 12 et ils sont revenus 6. Donc, c'est la moitié de l'équipage.
Et côté norvégien ?
Alors, côté norvégien, donc 7 sont recueillis. Et je crois qu'il n'en revient que 3. Voilà. Hein, les 4 autres sont morts, là aussi, pendant le sauvetage.
C'est pour ça qu'il y a le monument de la Norvège sur les lieux. C'est un remerciement de la Norvège.
Alors oui, mais ça ne va pas venir comme ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va enterrer dans une, j'allais dire, fraternité des gens de mer, à la fois les gardes des lieux et les Norvégiens, donc en Bretagne. Les rescapés vont rentrer sur les lieux. L'émotion est au comble. Hein, là, les Norvégiens vont apprendre cet événement de mer absolument tragique et le peuple norvégien est un peuple de la mer et ils sont plus sensibles peut-être que d'autres à l'étendue même du drame et ont voulu rendre hommage. Alors ça va se faire en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il va y avoir un hommage, je dirais, de la presse française à travers un journal qui s'appelle L'Illustration. Alors L'Illustration... On va dire, sans publicité, c'est le Paris Match encore avec plus d'importance parce qu'il n'y a pas, naturellement, très peu de radio, il n'y a pas de télévision. Donc, la presse écrite, et notamment avec des photographies, a un impact beaucoup plus fort. Donc, L'Illustration va consacrer une grande partie d'un de ses numéros à ce drame, avec une signature qui est celle de Gaston Sorbet. Alors, pourquoi cet homme-là fait une... Ça nous a intrigués parce que ce drame épouvantable, c'est rien à côté de l'hécatombe qu'il y a sur la Terre. Donc pourquoi c'est, ben d'abord, parce qu'il voulait montrer la barbarie, même sur mer. Là, il y a vraiment un travail, je dirais presque, de propagande anti-allemande. Et puis il y a un deuxième point, c'est que ce journaliste avait en quelque sorte une connaissance déjà assez forte de l'île-Dieu puisqu'il passait les vacances à l'île-Dieu. Donc, quand il a appris le drame, il s'est senti peut-être plus que d'autres concerné. Il est venu à l'île-Dieu, il a fait un très beau reportage, très appuyé au niveau photographique. Hein, il a fait faire des dessins, il a vraiment presque, parce qu'elle fait œuvre d'historien, hein, en étant au plus précis possible.
Cette archive de presse, on peut la retrouver quelque part ?
Oui, ben, oui. L'illustration est connue. Hein, il y a eu des duplicatas de l'illustration qui ont été vendus. Voilà. Il a fait faire toute une série de photographies, notamment la photographie de tous les péris en mer. Et il a fait une très belle photographie. Alors là, avec la complicité du photographe de l'époque de l'île-Dieu qui s'appelle donc François Guillet, c'est Pascal qui l'autre jour regarde ça. Ah, c'était le photographe de l'île-Dieu. Et là, on a une très belle photographie de l'équipage survivant assis sur le mur du brise-lames, oui. À côté de Noé de Vaux. Hein, c'était le survivant. Première étape. Deuxième étape, le 18 juin 1917, les Norvégiens viennent. Alors, qui vient ? L'ambassadeur, donc ministre de Norvège, le baron de Wedel-Schjarsberg, qui vient avec les autorités françaises pour rendre hommage. Et cet hommage solennel, il y a non seulement... Alors, juste avant, excusez-moi, j'ai oublié, les corps sont rapatriés. C'est-à-dire que l'île-Dieu obtient le retour des corps. Ça, c'est du point de vue pour les femmes de marins, pour les familles de marins, c'est essentiel.
C'est vraiment, on peut dire que c'est vraiment un soulagement.
C'est un soulagement et c'est une première façon de pouvoir faire son deuil, hein, de dire les corps sont parmi nous.
Sont à l'île-Dieu.
Voilà, donc là il y a toute une cérémonie qui est faite, le retour des corps. On a retrouvé des photographies de ce retour des cercueils. Donc ça c'est au début du mois de mai. Et puis au mois de juin, donc les Norvégiens qui vont apporter non seulement l'hommage de la Norvège, mais aussi à travers des plaques, etc., mais aussi... un sacrifice financier important puisque les familles vont être dotées de sommes d'argent importantes hein, qui vont leur être remises, de décorations bien sûr aux sauveteurs et un engagement de dire eh bien quand la guerre sera finie, on offrira une statue qui rappellera l'événement. troisième étape, la statue.
La statue est arrivée quand, Pascal ?
Alors, la statue, elle va être mise en place en 1922. Hein. Donc, c'est quand même quelques années après. Et elle va arriver par Saint-Nazaire, en bateau. Enfin, c'est une véritable expédition en plusieurs morceaux, en tout cas pour ce qui est du socle. Et ça va donner cours donc, à l'île-Dieu, là où déjà, à un événement, rien que la mise en place de cette statue, parce que l'île ne dispose pas à l'époque des moyens de levage qui correspondent au poids de la statue. Enfin, c'est un vrai ramdam au niveau des ouvriers qui viennent la mettre en place.
Elle pèse combien, cette statue ?
Alors, je ne sais pas. Mais elle pèse plusieurs tonnes, je crois.
La Norvège demande au plus grand sculpteur de l'époque, Stefan Sinding, de réaliser en forme de bas-relief une statue qui va être une allégorie. Hein, donc, elle est là pour donner sens aux choses. Alors, quel est le sens de cette statue de la Norvège ? C'est une femme qui est coiffée d'un bonnet phrygien, donc qui rappelle la République française. Donc, derrière cette République française, on entend les droits de l'homme. Donc, vous voyez, donc c'est en quelque sorte une personne qui dépasse la stature même de la France et qui tend les bras à cet homme qui sort de l'eau, le naufragé. Donc, vous voyez, c'est une très belle allégorie. Et en cela, Stefan Sinding reprend ce thème-là qu'il a déjà sculpté à la Sorbonne, donc dans la chapelle de la prestigieuse université de Paris, où c'est à nouveau la République française qui tient dans ses bras un jeune homme qui est mort et dont le glaive est brisé. Et c'est donc un hommage à rendre, ça s'appelle l'offrande, la jeunesse sacrifiée pour la liberté. Donc, une cérémonie célèbre hein, de la statue de la Norvège, qui est vraiment quelque chose de très important, et qui va être en quelque sorte pour l'île-Dieu, on pourrait presque dire le vrai monument aux morts. Hein, c'est-à-dire qu'il unit dans une place qui est une place centrale, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, on débarque au quai qu'on appellera plus tard le quai du Canada. Donc, à peine on débarque de l'île-Dieu qu'on est face à cette Norvège, donc à cette République qui tend les bras aux naufragés. Il y a plus qu'un symbole et elle est tout près de la baraque du canot de sauvetage, d'où est parti le drame. Mmh. Donc là, il y a une sorte d'unité de lieu.
Et maintenant, les mariés font le tour pour avoir, pour connaître le nombre d'enfants, on peut dire ça comme ça. Ça vient d'où ?
Oh, ça vient juste de la récupération par la population du monument.
Ça aurait pu être une tradition de la Norvège.
Non, une très belle appropriation en fait hein, de ce monument qui finalement est passé d'une œuvre commémorative et officielle à, je dirais, une œuvre populaire tout simplement que les gens se sont appropriés. Donc c'est même très beau hein, d'imaginer qu'à un moment on passe justement de ce côté officiel à un côté très populaire, très familial finalement.
Voilà. Alors il y a sans doute une réappropriation qui se fondait sur une tradition. C'est-à-dire que d'abord, c'est une place qui n'est pas vieille, car il faut se rappeler que les quais ne sont pas anciens et qu'à l'endroit où se trouve le brise-lames, c'est un endroit très dangereux qu'on appelait le Cap Enragé. Donc, c'est pas pour rien qu'on y a construit ce brise-lames au sens étymologique qui casse la mer, qui casse la lame, pour permettre d'avoir un port en sécurité. Et j'ai trouvé dans les archives que les vétérans de la guerre de 70.
Donc, 1800.
1870. Ah ben moi, ils vont me mettre le siècle. Bon, 1870. Les vétérans partaient de cette place et montaient en musique jusqu'à l'église. Et redescendaient. Et après avoir fait des œuvres pieuses, complétaient par d'autres œuvres qui étaient plus culinaires dans les deux restaurants, une année sur deux, parce qu'il y avait deux grands restaurants à l'époque, deux hôtels. Il y avait l'hôtel des voyageurs tenu à l'époque par Serra et l'hôtel du commerce tenu par Turbé. Donc, les vétérans alternaient ou l'un ou l'autre. Donc, il y avait déjà ce chemin qui était ce chemin des vétérans. Et les mariés ont pris cette habitude de continuer la fête après la cérémonie religieuse, de descendre la grande rue, naturellement, en chantant. Et ben, ils ont repris ce mouvement parce que il y avait de l'ampleur, parce que les gens de l'île ont toujours aimé marcher et de faire le tour. Et il semble que ça soit un des rares monuments dédié aux morts qui soit un magnifique symbole d'espérance de la vie.
Et de naissance.
Et de naissance, bah, la vie à venir.
Mm-hmm. Bien sûr. On peut dire que la boucle est bouclée.
D'une certaine façon, oui.
Quai du Canada, d'ailleurs, l'exposition retraçant la guerre sous-marine au large de l'Île-Dieu en 1917, organisée par le service patrimoine de la mairie de l'Île-Dieu, dont toi, Pascal, et Jean-François Harry. Comment vous avez travaillé sur cette exposition ?
Alors, comment on a travaillé ? Bah, d'abord par un gros travail de recherche, hein, évidemment. Et puis, bah, je crois qu'on peut le dire, c'est la première qu'on coécrit tous les deux. Donc ça a été un joli moment. On a, disons qu'on a fait chacun notre partie. Oui. Voilà, donc Jean-François, c'est lui est beaucoup occupé donc de l'IMER et moi j'ai plus travaillé sur le Sequana, même si évidemment on a échangé régulièrement et qu'on s'est communiqué les informations et les remarques sur le travail de l'un et de l'autre.
Une exposition photo et texte.
Photos d'archives, hein, bien mm-hmm. entendu. On s'est vraiment appuyé à retrouver des documents d'époque, notamment aux archives départementales de Vendée et aux archives de Rochefort, et puis également aux archives municipales de l'Île-Dieu. Et puis, on a retrouvé aussi des œuvres d'époque, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les photos sont toujours très intéressantes et très évocatrices, mais que les œuvres créées par les artistes vendéens et de Loire-Atlantique, en tout cas, à l'époque, sont beaucoup plus, pour nous, enfin, nous sont parues beaucoup plus émouvantes, en fait, beaucoup plus parlantes. Donc, on a eu la chance que, notamment, le musée Sainte-Croix nous permette de reproduire des œuvres de Paul-Émile Pageot, qui a vraiment été un témoin fidèle de cette guerre de 14-18 au travers de ses aquarelles. Et puis, on a retrouvé aussi des œuvres de Pinard, des œuvres de Gouachon, voilà. Donc on donne à voir aussi, quelque part, comment les artistes de l'époque ont vécu cette guerre aussi, comment ils l'ont vue, comment ils l'ont retracée. C'est assez intéressant, je pense.
Alors, je vais dire juste une petite réserve.
Oui, Jean-François.
Quand Pascal dit c'est la première, moi je dirais non, parce que on travaille en duo depuis les débuts de 2014, hein, où la première année, on a évoqué surtout la vie quotidienne dans l'île. 2015, on a évoqué et on a réalisé ensemble donc, cette exposition qui a eu lieu donc, à la Citadelle sur les internés, donc les indésirables. Donc, vous voyez, et l'année dernière, on a plus travaillé sur les combattants, donc sur le front, hein, notamment à travers un certain nombre de choses, et rendre hommage à la famille Chaillou qui nous a confié un fonds tout à fait étonnant et exceptionnel. Et donc, cette année, l'année 17, c'est la grande année puisque l'Île-Dieu qui était loin des champs de bataille devient au milieu des champs de mines et ça devient vraiment le... Il faut bien se mettre dans l'idée que l'événement de l'Imer, aussi tragique soit-il, est un événement parmi d'autres puisqu'il y aura quand même, cette année-là, 25 torpillages sur l'Île-Dieu. Donc on évoquera dans un autre cadre celui du Sequana, mais vraiment c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc notre rôle, c'est en quelque sorte de rythmer cette commémoration à travers des angles différents. Et cette exposition est une dans une suite.
Pascal, cette exposition est en place au Quai du Canada jusqu'à quand ?
Alors, elle vient d'être mise en place, là, j'en viens. Oui. Et donc, elle va rester, si tout va bien, jusqu'au 17 septembre, donc pour la fin des Journées du patrimoine. Hein. Je dis si tout va bien, parce que comme on est sur le port et qu'elle va passer l'été sur le port, on ne sait jamais ce que nous réservent les nuits estivales.
Jean-François, pour commémorer, vous avez proposé également des réunions publiques.
Alors, on aura des conférences.
Des conférences.
Hein, des conférences. La première... dès le 9 juin. On sait combien les gens de l'Île-Dieu sont pris par les festivités d'été, avec les sollicitations un peu partout. Et c'est pourquoi, en lien donc, avec la mairie, le patrimoine, on a dit dès le 9 juin, pour permettre aux gens de l'Île-Dieu d'en profiter, et là, on aura donc une conférence qui va nous permettre d'approfondir. Et puis... aussi, c'est questions-réponses, parce que tout le monde a plus ou moins des explications à faire, et c'est toujours intéressant d'aller plus loin. Hein. Et puis, il y a des rencontres. Je voudrais juste faire une allusion à cette chose-là. C'est que souvent, quand on travaille, donc j'ai fait un bouquin dès le début de la guerre, et ce livre a été une provocation à de nouvelles recherches, de nouvelles sorties de choses. Et je pense qu'on peut évoquer celle d'un plafond. hein, parce que c'est assez intéressant. Un jour, une dame téléphone à la suite d'une interview à Neptune et me dit, j'ai chez moi un plafond qui a été peint par les internés. Et grâce à ces émissions-là, des gens ont sorti des choses. Et peut-être que, suite à l'exposition que nous avons faite, eh bien, il y a des choses qui vont ressortir.
Merci Pascal Cariou du service patrimoine à la mairie de l'Île-Dieu. À très bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Merci Jean-François Henry. À très bientôt.
À bientôt.
Une conférence avec Jean-François Henry aura lieu à ce sujet mercredi 9 août à la salle numéro 3 dès 20h30. On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, autre rendez-vous avec Jean-François Henry et Pascal Cariou du service patrimoine de la mairie de l'Île-Dieu. On vous parle du torpillage du Sequana. À demain, au revoir.
Musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.